Voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, l'emploi des jeunes en Afrique, quelle solution ? Avec 200 millions d'habitants âgés entre 15 et 24 ans, l'Afrique concentre la population la plus jeune de la planète et la moins bien formée en même temps. Avec les menaces migratoires, les bailleurs de fonds n'ont jamais été aussi mobilisés sur ces sujets, il faut le dire. Et de leur côté, les jeunes vont à l'école plus longtemps que leurs parents et surtout avec Internet, ils ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Mais de l'agriculture et de l'agroalimentaire au secteur numérique, quels sont finalement les secteurs porteurs capables de proposer massivement des emplois ? Comment mieux préparer les jeunes dans leur orientation, dans leur formation ? Et puis avec quelle volonté politique du côté des dirigeants ? Nous allons en discuter avec des spécialistes et des acteurs de terrain. Roen Daigle-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'AFD, l'Agence française de développement, spécialiste de l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Hervé Bonino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des opérations pour l'ONG Care France, qui mène des projets très concrets auprès des jeunes, notamment dans les situations en crise, notamment dans la région du lac Tchad, où la situation sécuritaire est compliquée et donc encore plus compliquée pour trouver un emploi pour les jeunes. On sera également en ligne au Tchad avec Aladou Massidjim de l'ONG Essor et avec Raygan Zounou du GRET, qui est une ONG et en même temps un centre de recherche sur le développement. Un entrepreneur togolais, Edem Dalmeida, nous donnera son point de vue et il a créé une entreprise de collecte, de tri et de recyclage des déchets. Et quant à vous, les voisins et les voisines, racontez-nous comment vous avez décroché un emploi et les leçons aussi que vous en tirez pour résoudre le problème de l'employabilité. Bref, vous avez la parole en direct, n'attendez pas pour nous appeler 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp, vous appelez gratuitement.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins, hein ?
Roen Daigle-Pierre, de quoi parle-t-on au juste quand on parle des jeunes et de l'emploi ? On cite des chiffres de plusieurs millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi à l'heure actuelle sur le continent africain. Qu'en est-il réellement ?
Alors effectivement, le nombre de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, il y a différentes estimations, mais c'est environ entre 15 et 17 millions de jeunes chaque année qui arrivent sur le marché du travail en Afrique. Et ça va augmenter jusqu'à 2030. Et on devrait arriver tranquillement à une trentaine de millions de jeunes chaque année qui seront sur le marché du travail.
Tranquillement.
Voilà, progressivement. Mais 30 millions, c'est la force de travail française, pour donner un chiffre.
Oui.
Donc en fait, c'est effectivement extrêmement important. Cette jeunesse-là, effectivement, elle est mieux formée que celle de ses parents, mais elle se confronte effectivement à de grandes difficultés sur le marché du travail. Elle est encore beaucoup en zone rurale, à plus de 70%. Une grande partie de ces jeunes, finalement, sont ce qu'on appelle des travailleurs pauvres. Donc, en fait, ils sont dans la pluriactivité, dans le secteur informel et dans des situations extrêmement difficiles. Effectivement, il y a aussi une partie de ces jeunes qui sont diplômés, qui eux aussi ont beaucoup, beaucoup de difficultés à s'insérer. Donc, il y a un grand chômage des diplômés et beaucoup de surqualification. C'est-à-dire que les jeunes diplômés s'insèrent. Ça prend du temps, ils mettent beaucoup de temps à s'insérer, mais en plus ils s'insèrent souvent dans des emplois où ils sont surqualifiés.
D'ailleurs, on ne parle plus de chômage aujourd'hui des jeunes, mais de l'emploi des jeunes, parce qu'en réalité, certes, ils n'ont pas les emplois qu'ils souhaiteraient, mais ils ont forcément tous, pour des raisons de survie, des petits boulots. Hervé Bonino.
Oui, effectivement, dans beaucoup de pays où nous intervenons, l'informel est avant tout le secteur d'activité principale. Et là-dessus, il faut aussi s'adapter sur des terrains, sur des contextes qui changent très rapidement. Du fait d'instabilité locale, mais également de stress, de bouleversements économiques, environnementaux. Et dans ce schéma-là, nous avons toute une population jeune qui ont du mal à s'y inscrire, à trouver des opportunités.
Ouais. Quand vous dites que ça change très rapidement, donnez-nous un exemple.
Eh ben, dans les territoires sahéliens, subsahéliens, par exemple, nous constatons que ce soit en termes d'instabilité sécuritaire, mais également de variables climatiques, des complexes et des millefeuilles de problématiques qui font que l'économie locale a du mal à se développer.
Mais à quoi vous pensez précisément ?
Eh bien, je pense précisément à des épisodes déstructurants qui sont purement liés à des conflits ou à des inondations, à des sécheresses qui sont récurrentes, de plus récurrentes, et qui plombent l'économie locale à travers des parcours professionnels qui ne peuvent pas se faire ou qui ne peuvent pas se démarrer.
Qui veut dire qu'en une semaine, on perd son boulot, on perd ses trois boulots et qu'il faut qu'on en retrouve trois autres. C'est ça, complètement différent.
Exactement, on peut tout perdre d'un seul coup et intégrer un statut directement de personne extrêmement vulnérable, dépendant d'une assistance directe, puis après d'un accompagnement, puis après d'un parcours qui doit être construit sur la durée, un parcours très complexe pour pouvoir revenir dans le développement local.
Pourquoi, Roen Deglepierre, des pays qui connaissent une réelle croissance économique avec de l'enrichissement, certes mal réparti, mais de l'enrichissement quand même, ne créent pas d'emplois ?
En fait, ça crée de l'emploi effectivement plutôt formel, mais donc c'est effectivement une minorité dans les villes qui ont accès à ces emplois-là. Et en zone rurale, notamment dans l'agriculture, la productivité reste relativement faible. Et finalement, cette croissance qu'on voit effectivement dans un certain nombre de pays, elle bénéficie effectivement pas aux jeunes en particulier, et elle leur permet pas de créer de l'activité.
Vous pensez à la Côte d'Ivoire, par exemple ?
On travaille beaucoup en Côte d'Ivoire, effectivement, en ce moment. On a plusieurs programmes, et on travaille notamment, et ça c'est un des premiers aspects, c'est qu'il faut construire des politiques de l'emploi. Donc on accompagne le ministère de l'Emploi ivoirien, notamment pour les agences emploi jeunes. Mais c'est extrêmement compliqué, et effectivement, ça intègre des enjeux d'économie et du développement en général, c'est-à-dire d'avoir des économies qui soient effectivement pro-emploi, au lieu de, par exemple, d'économies qui soient focalisées sur les rentes ou sur les ressources naturelles de manière assez classique. Donc ça, c'est vraiment des sujets très très importants pour les pays. Mais après, il y a des enjeux d'accès au crédit, il y a des enjeux effectivement de formation, de productivité. Et là, on a vraiment besoin d'associer les différents acteurs, que ce soit la société civile, les jeunes, les sociétés internationales, évidemment, qui sont très très importantes, mais aussi effectivement les organisations publiques, que ce soit celle de la formation ou celle de l'emploi. Il y a vraiment un enjeu d'offre de travail.
Si on fait une émission sur les agences emploi jeunes, comme il y en a à peu près dans tous les pays du continent, je peux vous dire que le standard saute là, parce que entre ce que racontent les bailleurs, les politiques sur ces agences et la réalité de ce que vivent les jeunes quand ils se rendent dans ces agences emploi jeunes, là, il y a de quoi faire 4 heures d'émission.
Un point important, c'est d'ailleurs qu'effectivement, elles sont encore trop focalisées sur les emplois formels. Et encore une fois, l'emploi formel, c'est 10% de l'emploi en Côte d'Ivoire. Et effectivement, mais c'est la façon de réfléchir l'emploi qui doit changer. On doit vraiment regarder l'emploi non formel, donc les 90% restants qui sont souvent maltraités d'une certaine manière.
Alors nous, en tout cas, on mélange tous les secteurs dans l'émission aujourd'hui. Quelle solution pour l'emploi des jeunes ? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Denis Satanaz est en ligne avec nous de Pointe-Noire. Bonjour Denis Satanaz.
Bonjour.
Vous êtes agent des douanes, je crois, et vous souhaitez d'où faire un peu un inventaire à la Prévert de tous les secteurs qui devraient théoriquement employer des jeunes dans votre pays et qui n'emploient pas grand monde.
Ben oui, justement, parce que déjà que lorsque ça fonctionnait très bien, ils n'étaient pas capables d'exorber suffisamment de jeunes, mais qu'aujourd'hui, en période de crise, c'est de plus en plus grave, notamment en ce qui concerne le secteur pétrolier. Au niveau du secteur pétrolier, aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui ferment à cause de la crise et qui donc sont en train de licencier. Et au niveau du port de Pointe-Noire aussi, à cause de la crise, il y a une forte baisse d'activité qui fait que des sociétés de transit et de consignation sont en train de fermer et de licencier. Dans le secteur du bois, qui devrait être porteur dans notre pays, malheureusement, ce secteur n'est pas dynamique pour plusieurs raisons. Je ne vais pas m'étaler sur les détails. Il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre là-dessus. Bon, l'agriculture qui a toujours été proclamée.
Et surtout, sur le secteur du bois, on ne transforme pas le bois sur place.
Malheureusement, oui, on ne transforme pas le bois sur place. Ce sont des grumes qui sont exportées et qui enlèvent donc des possibilités d'emploi au niveau local. Ce qui fait que justement, il n'y a pas d'offres. Et l'agriculture, comme je le disais, toujours priorité des priorités dans notre pays, ne décolle pas. C'est toujours une agriculture embryonnaire d'autosubsistance qui n'intéresse pas les jeunes finalement, qui eux préfèrent quitter les villages et aller grossir les villes avec ce phénomène d'exode rural. Oui. Bon, dans le commerce, malheureusement, le commerce chez nous, de gros, des négros, des tailles, est essentiellement tenu par les étrangers. qui, eux, viennent avec des sujets de leur pays. Hein, ils travaillent dans un cadre communautaire. Les Ouest-Africains travaillent avec les Ouest-Africains. Les Libanais travaillent avec les Libanais. Les Indiens travaillent avec les Indiens, de sorte que, bon, à ce niveau, il n'y a pas de possibilité, beaucoup de possibilités d'emploi pour les nationaux. Et au final...
Et le BTP, les infrastructures, tout ça?
Bon, le bâtiment, c'est bon, essentiellement aujourd'hui les opérateurs chinois qui sont sur. Heureusement, eux aussi, quand ils viennent avec leur main-d'œuvre. Et bon, les contrats d'emploi qu'ils proposent aussi n'intéressent pas beaucoup les Congolais à cause des conditions de travail avec eux. Ce qui fait qu'à ce niveau aussi, ça ne bouge pas assez. Et donc, essentiellement, les jeunes diplômés sans emploi sont dans le système D, oui. Le secteur informel. C'est là-dedans que tout le monde est.
Et dans l'hôtellerie, ça bouge?
Bon, dans l'hôtellerie, oui, curieusement. Il y a même quelque chose, une histoire que je voulais vous raconter, parce qu'il y a un hôtel américain qui venait d'ouvrir chez nous, là, et qui a lancé un appel d'offres. Mais c'était l'émeute générale. Il a fallu que les polices viennent intervenir parce que tout le monde est parti avec son CV.
Oui.
Pour essayer de se positionner. C'était l'émeute générale. Des centaines et des centaines de jeunes se sont déferlés sur le lieu pour essayer d'accrocher un emploi. Donc,
mais pour combien de postes disponibles, des centaines et des centaines de jeunes, au point que ce soit l'émeute, pour combien de postes?
Mais je ne sais pas exactement combien de postes étaient disponibles, mais pas assez, j'espère. Parce que la demande aussi devait être bien ciblée, mais là-dedans, tu trouvais des licenciés en économie, en droit, tout le monde qui allait tenter sa chance pour essayer de décrocher un poste.
Ouais. Bon, merci Denis Athanase hein, pour ce point et cette liste longue. Voilà, il a quand même fait une liste de 7 ou 8 secteurs qui, en toute logique, devraient employer de la main-d'œuvre, qualifiée ou pas d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Peut-être déjà un point intéressant, c'est sur les attentes de la jeunesse, effectivement, qui ont été évoquées. Donc il y a pas mal de travaux qui montrent qu'effectivement, en Afrique, la jeunesse a un niveau d'attente qui est très élevé. En fait, ils s'attendent à avoir des emplois dans le formel, donc dans ces 10%, alors qu'on sait pertinemment qu'à 90%, les emplois vont être plutôt dans l'agriculture et dans le secteur informel. Donc il y a un gros enjeu dans la société mondialisée dans laquelle on est.
Mais même ceux qui ne sont pas allés à l'université, parce que les jeunes qui vont à l'université, c'est moins de 10% d'une classe d'âge, donc ils sont très 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 minoritaires.
Même ceux qui ne vont pas à l'université, par exemple, qui ont un diplôme du secondaire, effectivement, regardent la télévision, sont connectés à Internet et voient les types d'emplois qu'ils voudraient avoir d'une certaine manière, et donc ils visent plutôt des emplois dans la fonction publique ou dans le formel, ce qui représente pas forcément dans la réalité économique des pays. Donc ça, c'est un premier aspect.
Et donc, quand il y a un décalage entre leur projection et ce qui leur est proposé, ça veut dire que c'est difficile de construire son propre parcours, non?
Complètement. Donc il y a une grosse frustration.
Notamment quand au départ de son parcours, on n'a pas un niveau d'instruction, d'éducation qui permet déjà d'amorcer quelque chose. Hein. La plupart de nos bénéficiaires, qui sont extrêmement pauvres sur le terrain, pour la plupart, ne sont pas alphabétisés. Donc il faut commencer même par là, par une alphabétisation fonctionnelle qui permet de les intégrer dans un parcours professionnalisant. Et c'est vraiment le démarrage de ces populations les plus pauvres.
Rohan Daigle-Pierre, oui, pour revenir au secteur qui, normalement, aujourd'hui, devrait offrir des opportunités aux jeunes.
Effectivement, donc il y a plusieurs problèmes qui ont été évoqués, mais on est dans beaucoup de secteurs où on typiquement le bois, effectivement, moi j'étais au Bénin il y a pas très très longtemps, il y a de la formation professionnelle sur le bois, mais ils n'ont pas de bois, en fait, pour travailler, concrètement. En fait, même pour apprendre, parce que le bois est exporté.
Et au Gabon, où on interdit d'exporter le bois brut, est-ce qu'il y a de la formation professionnelle pour transformer le bois?
Du coup, je ne connais pas bien le Gabon, pour le coup, mais...
Là, on aborde un sujet qui est extrêmement intéressant, et ce qui est nouveau aussi dans notre manière de travailler, en tant que ONG internationale, c'est comment développer des projets, des programmes d'action avec la société civile, les autorités locales, justement pour identifier à l'échelle des territoires des chaînes de valeur ajoutée qui sont porteuses, qui peuvent créer de l'économie structurante sur du long terme et après, justement, proposer des options de travail à toute cette jeunesse, notamment les femmes qui sont les plus exposées et qui ont le plus de difficultés à trouver de l'emploi, désembarquer dans des chaînes de valeur à forte potentiel économique pour qu'ils puissent eux-mêmes être acteurs du développement local et de leur stabilité communautaire. C'est ça qui a changé ces derniers temps.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle des solutions pour l'emploi des jeunes sur le continent africain.
7 milliards de voisins. On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Charles est enseignant à Bouaké dans le nord de la Côte d'Ivoire. Bonjour Charles, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel, merci.
On vous écoute Charles.
Je suis Charles, je suis enseignant à l'université depuis 5 ans. Et j'ai eu mon premier job à 24 ans dans le secteur de la traduction interprétariat, puisque j'ai fait le département d'espagnol. Et donc à la base, j'ai eu une formation en espagnol et je voudrais intervenir sur la crise de l'emploi parce que c'est une véritable crise à laquelle nous assistons. Depuis 2 ans, nous avons franchi en Côte d'Ivoire la barre de 100 000 bacheliers. 100 000 bacheliers par an. Ça veut dire que dans cette année, par exemple, nous avons 100 000, 112 000, me semble. Et dans 3 à 5 ans, c'est 100 000 nouveaux travailleurs, enfin 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui vont frapper au port du travail. Je pense que c'est inquiétant parce que nos structures n'ont pas de grande capacité d'accueil et c'est inquiétant.
Et ça veut dire que, évidemment, tous n'iront pas à l'université, tous n'iront pas dans les écoles privées hors de prix. Ça veut dire que si on n'a pas de place à l'université et qu'on n'a pas d'argent pour aller dans une école privée, qu'est-ce qui est proposé d'autre pour apprendre un métier à la sortie du bac, hein, Charles ?
Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de structures pour récupérer tous ceux qui n'arrivent pas à être orientés, parce qu'à la base, la formation qu'on nous donne, c'est une formation générale. Une formation générale. Et moi, lorsqu'on oriente 2000 étudiants en philosophie, qu'est-ce qu'ils deviennent après ? Parce qu'on sait que lorsqu'on envoie 2000 étudiants en philosophie, le débouché naturel, c'est d'être prof de philo. Mais on prend combien de personnes?
Mais attendez, Charles, ce qui est fou, c'est que vous auriez pu nous appeler il y a 20 ans dans cette même émission, vous auriez dit la même chose. C'est ça qui peut sembler incroyable quand même.
Oui, parce que moi, par exemple, moi j'ai eu le bac en 2000, et nous étions déjà 20 000 bacheliers à l'époque. En 2000, nous étions 20 000 bacheliers et tout le monde n'a pas été orienté. Et aujourd'hui, nous sommes à 100 000 bacheliers et nous sommes confrontés au même problème.
Néanmoins, tout le monde a fini par trouver un boulot parce qu'il faut bien vivre. Vous-même, vous dites, j'ai commencé à travailler à 24 ans. C'est intéressant cette phrase parce que je ne peux pas croire que vous n'ayez jamais gagné un franc CFA jusqu'à l'âge de 24 ans, Charles.
Non, non.
Vous avez fait des petits boulots, forcément.
Oui, mais c'était pas un boulot à plein temps. J'ai travaillé comme traducteur, interprète dans un cabinet.
Oui, mais c'est étonnant cette division que vous faites, comme si vraiment à 24 ans, vous aviez commencé à travailler. Or, en fait, pas du tout. Vous avez commencé à travailler bien avant.
J'ai travaillé bien avant comme correcteur d'articles de presse dans un organe de la place, un organe local. Mais c'était une aventure qui n'a pas duré. Et puis après, j'ai été dans un cabinet pour travailler comme interprète.
Ouais. J'aime bien ce terme, c'est une aventure. Merci Charles. Merci Charles de nous avoir appelé. Hervé Bonino.
Oui, bah, c'est ça, pour revenir sur l'aventure, le parcours d'un jeune en Afrique, dans des terrains complexes, c'est une aventure au quotidien, avec devant soi également... parfois le pronostic vital de son foyer qui est en jeu. Donc il s'agit d'avoir vraiment des ressources adaptées et rapides.
Et la difficulté pour les jeunes de prendre en compte toutes leurs expériences de vie pour constituer un parcours professionnel en réalité, on le voit bien.
Mais complètement, parce qu'en fait il y a souvent la notion d'emploi, et un emploi c'est un contrat, avoir une protection sociale, et donc là on est vraiment encore une fois dans les 10% de l'emploi formel. Et effectivement il y a la notion de travail, et maintenant effectivement on parle plutôt du travail, du futur du travail, parce qu'en fait on sait qu'une bonne partie de cette jeunesse-là va être dans la pluriactivité, va changer fréquemment de type d'activité, et donc on n'est pas vraiment dans un emploi type de ceux qu'on connaît effectivement en France.
Est-ce que les jeunes savent faire dès la naissance? naissance quasiment d'ailleurs sur le continent africain, mais ce dont ils ne veulent pas.
Non, effectivement, et c'est un point très important dans l'insertion des jeunes en Afrique. On se rend compte que la plupart du temps, c'est dans la famille en fait. C'est à l'intérieur même de la famille qu'on commence à avoir de l'activité qui n'est pas payée. Et donc, on est aussi dans un schéma de reproduction, c'est-à-dire qu'effectivement, les élites finalement insèrent les jeunes dans leurs élites finalement, alors que les agriculteurs finalement continuent à mettre leurs enfants dans de l'agriculture, notamment parce qu'ils n'ont pas le choix. Et là, il y a un gros enjeu d'efficacité économique aussi.
Ray Ganzenou est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous appartenez à l'ONG GRET, hein, qui est une ONG d'action, de développement, mais aussi de recherche sur le développement. Vous travaillez notamment au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, au Congo-Brazza. Vous avez entendu les témoignages, là, sur la nécessité de la formation professionnelle. Rohan Deglepierre nous dit on fait une bonne formation sur le bois au Bénin, il n'y a pas de bois, mais là où il y a du bois, il n'y a pas de formation professionnelle. Comment vous appréhendez le problème ?
Ben, d'abord, merci pour l'invitation et je salue tous les collègues qui sont sur le plateau. Et alors, du coup, effectivement, Rohan a bien abordé la question en posant la question du raisonnement économique de l'emploi. Il faut avoir une économie pro-emploi et cela pose la question de comment on fait émerger et faire vivre des filières qui, elles, vont générer derrière des possibilités d'emploi. Et du coup, ça renvoie à l'identité économique des territoires parce qu'il faut localiser l'emploi, il faut localiser la formation.
Est-ce qu'on peut donner des exemples là, par rapport à votre travail de terrain, qu'on soit un peu concret ?
Justement, j'en viens, pour être concret, il y a par exemple, pour essayer de travailler sur la connexion entre les opportunités.
Allô, Ray Ganzenou, est-ce que vous êtes bien en ligne avec nous ? Il semblerait qu'on ait un petit problème technique. Oui, on est en train de vous rappeler. Alors, on abordait le problème complexe de la formation professionnelle. Enfin, complexe, ça fait 20 ans qu'on en parle. Donc, depuis le temps, on devrait avoir compris et démêlé le problème, non ?
Pas tant que ça, finalement, parce qu'on a souvent des formations professionnelles, encore une fois, qui visent le formel et qui sont, donc encore une fois, sur une frange de l'économie qui est assez faible. Et donc, c'est là où il faut aller beaucoup plus vers l'apprentissage traditionnel et d'autres types de formations professionnelles.
Ray Ganzenou est de retour avec nous au téléphone. Pardonnez-nous.
Désolé, on a été coupé.
Oui, allez-y.
Non, effectivement, il faut, de manière concrète, on a testé un dispositif en Mauritanie pour essayer de connecter à la fois les opportunités d'emploi et les besoins des jeunes, en ayant mis en place ce qu'on appelait un dispositif cap insertion, qui permet aux jeunes de faire un choix d'orientation par rapport à une filière.
Exemple de filière, s'il vous plaît, soyons concrets dans cette émission.
Exemple, c'est des filières, par exemple, en soudure, des filières en menuiserie, dans lesquelles on a orienté ces jeunes. On a réussi à intégrer, à orienter vers l'emploi auprès de 1000 jeunes dans cette opération. Alors que, après, avec une différence, c'est que 5000 étaient inscrits sur ce dispositif-là. Donc, on va dire que voilà, le ratio peut paraître faible, mais non moins
assez intéressant. Alors, attendez, sur 5000 qui vont suivre, des formations en soudure, notamment, hein, c'est ça ?
Sur 5000 qui se sont inscrits dans le dispositif d'orientation vers une filière de formation et d'emploi,
il y en a 1000 qui trouvent un boulot.
1000 ont suivi le parcours et ont trouvé un travail.
Ah d'accord, vous en avez perdu 4000 en route en fait.
En route quand même, voilà.
Mais c'est-à-dire, ils se sont évaporés, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait les 4000 qui disparaissent ?
Non, parce que justement, et je reviens à ce que disait Rohan, c'est que parfois le financement de la formation pose un souci, parce que des fois les jeunes ont besoin de trouver une formation, sauf qu'ils ne sont pas accompagnés, et en plus ils appartiennent à des foyers relatifs assez pauvres, et du coup les moyens de financement pour accéder à cette formation, notamment l'éloignement, les coûts pédagogiques...
Oui, il faut payer le bus, etc.
Il faut payer le bus, voilà, tout à fait, et ça pose de vrais problèmes. Autre élément important par rapport à la formation, parce que nous sommes sur des formations duales, c'est effectivement comment on finance ces centres, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les centres publics qui offrent ces formations, il y a aussi des centres privés, bien sûr, qui portent ces centres-là. Malheureusement, on voit bien que les ressources qui sont parfois identifiées, notamment les taxes d'apprentissage qui peuvent être utilisées pour financer de la formation, ne sont pas injectées là où se déroule dans les formations.
Les entreprises, hein, les taxes d'apprentissage. Qui sont prélevés auprès des entreprises.
Tout à fait. Entreprises qui, par ailleurs, sont très peu mobilisées pour pouvoir penser et piloter avec les structures publiques l'offre de formation. Et donc, là aussi, ça pose quelques soucis.
Vous restez en ligne avec nous. Je voudrais qu'on accueille Aladoum Assidjim qui nous appelle de N'Djamena. Bonjour, Aladoum.
Oui, bonjour, Emmanuel Vassil. Bonjour aussi aux auditeurs.
Vous êtes un ancien juriste au chômage, reconverti avec succès dans une ONG. L'ONG s'appelle Essor. Elle mène des projets d'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire que vous accompagnez des jeunes beaucoup plus pauvres que vous n'étiez d'ailleurs. Hein. Vous étiez un diplômé, vous, de l'université. Mais vous les accompagnez vers le marché de l'emploi. Mais qu'est-ce que vous, déjà, personnellement, qu'est-ce qui a été déterminant dans votre reconversion juriste, sans emploi correspondant à votre qualification?
Ok, je pense à ce qui a été déterminant. Je pense que ça rejoint un peu ce que certains membres du panel l'ont dit. Moi, je le renumère en trois points clés, quoi. C'est le fait que j'ai suivi une formation supplémentaire de courte durée en management de projet de 2 semaines qui m'a permis vraiment de passer cette reconversion. Et cela m'a évité aussi de suivre une autre cursus très longue encore pour la reconversion. Le deuxième élément que je souhaite ajouter, c'est aussi la disponibilité de la structure qui m'a employé, qui a accepté de m'accompagner. Donc là, je pense, dans le cadre des reconversions, il faudrait aussi que nous ayons des structures, que ce soit des entreprises ou bien des ONG qui souhaitent accompagner ce processus de reconversion des jeunes. Mmh. Donc ça, c'est un élément aussi important.
Ouais. Mais vous êtes dans une ONG, mais dans une entreprise, je me mets à la place de l'entrepreneur, il n'a pas de temps à perdre, il recrute un jeune, il ne peut pas le former en même temps. Alors est-ce qu'il faudrait des structures d'appui où le jeune fait l'aller-retour entre l'entreprise, son travail, et puis en même temps, il continue à se former?
Oui, ça peut être des essais bien pensés, et ça, c'est des programmes qu'on pourrait monter avec des institutions publiques pour permettre aux entreprises de prendre des jeunes comme en incubation et de les accompagner pendant cette période de reconversion. Je suis tout à fait d'accord avec vous que les entreprises sont le profit. Ils n'ont pas du temps à perdre pour accompagner des stagiaires.
Hervé Bonino, vous, l'ONG CARE, vous menez des projets de terrain dans des zones qui sont compliquées, où oui. Les jeunes sont très pauvres et en plus victimes de l'insécurité et des conflits. Alors comment vous faites? Là, on a entendu le maître mot, c'est formation très courte. Hein, à la Douma Sijim, nous disait ça, c'est ce qui lui a permis de rebondir très vite.
Oui, tout à fait. Nous, la priorité pour nous, c'est déjà de créer du capital rapidement pour ces jeunes-là qui sont dans des contextes très, très extrêmes. Donc ils peuvent intégrer, par exemple, des activités à haute intensité de main-d'œuvre qui les embarquent sur des chantiers d'intérêt collectif pour créer un capital, sécuriser une part de ces payes sur des systèmes de parcours de formation à la carte. Donc on travaille avec les jeunes sur des parcours. Quel métier va-t-il faire? On les oriente sur des chaînes de valeur ajoutée, sur des filières porteuses.
Vous pouvez nous donner des exemples
précis. Et des exemples concrets, ça peut être dans la construction, dans l'agricole, ça peut être dans le vestimentaire, ça peut être des métiers extrêmement concrets qui permettent de les intégrer durablement dans une activité économique.
C'est de plus en plus... Qu'est-ce que c'est qu'un projet à haute intensité de main-d'œuvre?
Alors, c'est un chantier qui est d'intérêt collectif. C'est par exemple une réhabilitation d'une marque pastorale, c'est la réhabilitation d'une piste rurale qui va avoir à terme un impact collectif et communautaire à l'échelle.
Grosso modo, il faut casser des cailloux par 45 degrés.
Exactement.
C'est ce que vont dire les jeunes.
Exactement. Et donc, il faut les attirer là-dedans, non pas avec seulement une opportunité, une visibilité sur 3 mois ou 6 mois de travail, mais également de les embarquer en parallèle sur des parcours professionnalisants sur du long terme, notamment les jeunes femmes, puisqu'il y a également des jeunes femmes. Plus de 30% des jeunes femmes portent des boîtes tous les jours là-bas pour pouvoir s'inscrire dans la durée.
Vous en perdez beaucoup en chemin, comme nous disait Ray Ganzounou, quand ils en ont 5000 qui sont inscrits, il en reste 1000 à l'arrivée.
Alors, pour l'instant, les chiffres que l'on a sur les projets actuels, sur plus ou moins de 2000 jeunes intégrés dans ces chantiers communautaires, on arrive à avoir plus de 1000, plus de 50%, 1200 à 1300 personnes qui intègrent, qui choisissent le parcours soit d'intégration à des groupements d'intérêt communautaire ou d'associations villageoises d'épargne de crédit, soit qui s'intègrent dans des parcours professionnalisants, individuels. Et là-dessus, alors, où on en est, on peut dire que sur ces 2000 personnes inscrites dans nos projets, plus de 1000 sont actuellement, ont un projet
sur
concret.
Sur quel pays?
Là, je parle de données qui répondent à des programmes d'action dans le nord du Cameroun, dans les régions nord, extrême nord du Cameroun. Donc des environnements qui sont directement exposés à l'instabilité, aux chocs climatiques, etc.
Et à la guerre,
bien
pour
sûr.
Parler clairement. Qu'est-ce que, juste en quelques mots, qu'est-ce que vous en tirez comme réflexion qui pourrait être modélisable pour la problématique de l'emploi des jeunes en Afrique?
Alors, il y a une réflexion qui était intéressante aussi, qui permet de rebondir sur des nouveaux modèles justement d'action qui nous embarquent de plus en plus dans une ingénierie civile de plus en plus complexe et qui embarque également le secteur privé, la société civile, les acteurs locaux. Donc, c'est vraiment un sport d'équipe maintenant, si on veut vraiment identifier des opportunités et donner des options, des choix de vie à tous ces jeunes.
Aladou Massidjim, vous êtes toujours en ligne avec nous à N'Djamena. Oui. Au Tchad, aujourd'hui, quand on voit par exemple les difficultés du secteur pétrolier, quels sont les secteurs qui peuvent donner de l'espoir aux jeunes et sur lesquels vous travaillez avec eux?
Ok, je pense qu'aujourd'hui, il faut le noter, il y a la crise par rapport aux chutes du baril qui a affecté les activités économiques au Tchad. Et par rapport à ça, je pense nos efforts, il faut qu'on essaie aussi de s'ajuster. Donc je pense que nous avons commandité une étude de bassin d'emploi dans le cadre de notre nouveau projet Babalamal qui va s'implanter dans 3 autres villes au Tchad, notamment à Moundou, Sar et à Béché. Et les résultats de ces études nous ont montré clairement qu'il faudrait réorienter les jeunes vers 3 secteurs clés. Donc nous avons le premier secteur, c'est l'agriculture, l'élevage et la pêche. Donc ça va avec tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est production agricole. Le deuxième secteur, c'est les métiers ruraux. Donc ça rejoint un peu aussi ce que certains membres du panel ont évoqué, comment on peut, en milieu rural, créer de l'emploi pour les jeunes, pour qu'ils puissent ne pas venir en ville, mais trouver des emplois dans le domaine de la réparation des machines agricoles, des moulins, ils peuvent faire des installations et des maintenances de systèmes d'irrigation, ils peuvent fabriquer des équipements outils agricoles. Ça, ça leur donne l'impression de faire aussi un travail beaucoup plus valorisant. Et le dernier secteur, c'est de l'artisanat de production. Donc fabriquer tout ce qui est des artisanats, parce que ça c'est prisé par une classe moyenne en élite aujourd'hui au Tchad, et même les touristes qui viennent. Ouais. Donc voilà les 3 secteurs clés sur lesquels nous allons intensivement nous appuyer pour pouvoir offrir une opportunité d'insertion pour les jeunes.
Donc, en zone rurale, l'agriculture, la transformation aussi alimentaire, la mécanique, tout ce qui est autour de la maintenance mécanique, et puis l'artisanat, si tant est que les jeunes acceptent de rester en zone rurale. Rohan Deglepierre, merci beaucoup à Aladou Massidjim d'avoir été en ligne avec nous de l'ONG Essor à N'Djamena. Merci, très bonne journée à vous.
C'est effectivement un énorme sujet. En fait, de revaloriser cette profession qui sont liées à la culture, reliées aux zones rurales, parce qu'effectivement, il y a une pression sociale qui va encore vers la réussite sociale en ville, dans des emplois formels. Et ça, c'est extrêmement problématique, parce qu'on sait effectivement que les emplois, à l'avenir, quand même, ils vont être essentiellement dans l'agriculture, qui sera très, très impactée d'ailleurs par le changement climatique, ça, c'est un premier aspect, que le numérique va peut-être aussi modifier un petit peu les choses dans l'agriculture. Donc, en fait, il faut arriver justement à revaloriser ce secteur-là, à en augmenter la productivité et démontrer justement aux jeunes qu'on peut bien vivre en zone rurale et qu'on peut faire vivre sa famille et on peut trouver du sens, finalement, dans ce genre d'emploi. Alors qu'en fait, c'est perdu pour le moment. Effectivement, quand on interroge les jeunes, finalement, il y a très, très peu de jeunes qui veulent rester en zone rurale. C'est plutôt quand ils y restent, c'est plutôt par dépit.
Ray Gonzounou, vous êtes toujours en ligne avec nous. À propos de l'agriculture et plus largement aussi de la formation à des compétences, quelle est votre conclusion pour qu'on ait de la formation professionnelle très efficace, pas trop coûteuse aussi pour les pouvoirs publics?
La première des choses, c'est de partir de l'existant, c'est-à-dire les exploitants qui existent sur place déjà, qui ont des pratiques. Et en plus, souvent, c'est des exploitants familiales qui reprennent leurs enfants et qui n'y voient aucune attractivité par rapport à l'activité menée par les parents. Et donc, la première des choses à faire, c'est justement de créer des éléments d'attractivité pour que ces jeunes-là trouvent intérêt à y rester. Et donc, qui dit attractivité dit aussi comment l'activité se développe à travers des marchés au-delà des frontières de la zone d'implantation ou d'installation. Et donc, il y a par exemple l'idée des chantiers, des champs écoles qui sont des champs qui permettent de mettre en situation les jeunes en production et essayer de vendre les produits qu'ils font à l'issue de cette expérimentation-là sur des périodes relativement courtes, on va dire 2 à 3 saisons agricoles. Et donc, et de là, c'est pour susciter justement l'intérêt qu'ils peuvent faire naître à rester dans ces filières-là.
Merci Ray Gonzounou d'avoir été en ligne avec nous du GRET. Rohan Deglepierre, est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a un pays en Afrique qui investit massivement pour former des milliers de jeunes dans le technique avant le bac, après le bac, avec des formations courtes. Est-ce qu'il y a un équivalent, une Allemagne, une Autriche en Afrique, il y a une vraie vision de la formation technique ?
Il y a des tentatives, par exemple au Togo, mais je ne pense pas qu'il y ait encore un modèle qui ressorte. L'Éthiopie est un modèle intéressant parce que justement, c'est une économie qui est en train de s'industrialiser et donc qui crée de l'emploi via l'industrie. Et donc ça, par exemple, c'est une vraie question. Est-ce que l'Afrique va créer de l'emploi et se développer par l'industrie ou par les services ? Donc là, il y a différents modèles. Mais on
peut
pas
répondre à cette question d'ailleurs ou pas ?
C'est une question encore ouverte, en fait, finalement, parce qu'on peut... Potentiellement, et on peut imaginer des modèles de développement alternatifs qui ne soient pas forcément par l'industrialisation, comme ça a été le cas dans nos économies, mais c'est une question encore ouverte. Est-ce que l'Afrique devra passer par ces modèles ?
C'est aussi le rôle des ONG hein, sur le terrain de faire la promotion, de faire le plaidoyer auprès des autorités locales, justement sur des opportunités de territoire, pour justement créer du développement économique sur des chaînes de valeur, encore une fois, qui peuvent embarquer tous ces jeunes. C'est aussi important de faire de la démonstration de pratiques agricoles. D'ailleurs, on revient justement à des anciennes pratiques agricoles. La permaculture revient, l'économie mobile revient, essayer de promouvoir ces systèmes économiques traditionnels qui finalement...
Peu coûteux, plus adaptés au terrain, c'est
terrain,
ça ?
Au terrain, à la fragilité, au stress hydrique, à la fragilité des écosystèmes, beaucoup plus respectueux de l'environnement et dans ce cas-là, créer des espaces beaucoup plus dans la cohésion sociale, intercommunautaire, transfrontalier, et c'est
et là les jeunes, ils veulent bien retourner dans l'agriculture s'il y a du numérique, si on manipule des smartphones, si on gère l'hydrométrie avec une base de données. C'est ça qui plaît aux jeunes.
C'est possible, en fait. C'est ça. C'est aussi ce qu'on veut essayer de démontrer. Parce que, encore une fois, en Afrique, il y a une agriculture qui va pouvoir se développer. Il y a de la place. Il y a de l'accès à l'eau.
Et des besoins énormes.
Et des besoins énormes, en fait, effectivement.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Quelle solution pour l'emploi des jeunes ? Dans quelques instants, on donne la parole à un entrepreneur au Togo.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Dans chaque projet de développement, finalement, est-ce qu'on se pose la question de l'emploi des jeunes hein, quand on finance des projets ? En tout cas, il y a une volonté affichée de la part des bailleurs de fonds d'être de plus en plus transversaux et que ce problème-là soit pris en compte à chaque étape quand on bâtit des projets de développement. Je voudrais qu'on donne la parole à un entrepreneur. Bonjour, Edem Dalmeda.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux auditeurs.
Vous êtes un entrepreneur franco-togolais. Vous avez créé une entreprise de collecte et de tri des déchets qui s'appelle Africa Global Recycling. Vous ambitionnez un peu de devenir le PAPREC africain, qui est une entreprise française florissante qui emploie quand même 8000 personnes en France. Donc là, on y est, au passage à l'échelle, au grand volume d'emplois. Vous avez été lauréat du prix spécial de l'entrepreneur de l'économie verte en Afrique en 2018 à Abidjan. Le secteur du déchet, selon vous, est un secteur d'avenir pour l'emploi ?
Le secteur du déchet est le secteur d'avenir, mais aussi le secteur du présent pour la création d'emplois en masse sur le continent africain. Et ce ne sont pas des nouveaux emplois à aller chercher ou à réfléchir. C'est une manne, un bassin d'emplois qui existe aujourd'hui, détenu par, ou je dirais organisé par le secteur informel dont on parle, et qui doit simplement être accompagné, être structuré. Et je ne parle pas de formalisation parce qu'il faut aussi que nous arrêtions de vouloir formaliser ce qui ne l'est pas.
Donc
aujourd'hui, si vous prenez la question des déchets, vous avez sur les décharges des centaines de jeunes, de femmes, d'hommes qui vivent, mais qui vivent toujours dans des situations de survie et qui nécessitent ou qu'on nécessite d'accompagner dans une situation de vie, de confort. Je prends un exemple. Nous avons sur le continent africain la mode aujourd'hui des centres d'enfouissement. Les centres d'enfouissement techniques sont destinés aux déchets ultimes, pas à la valorisation des déchets. Et il n'y a aucun modèle économique, ni en Europe, ni ailleurs sur la planète, ni en Afrique, qui permette de créer des emplois à partir des centres d'enfouissement technique.
Mais le centre d'enfouissement, ça permet quand même d'enfouir un maximum de déchets très très rapidement dans des pays qui sont submergés par les déchets. La Côte d'Ivoire s'apprête à en ouvrir un et le Togo en a un dans le pays où vous êtes, qui a été d'ailleurs en partie financé par l'AFD, si je ne me trompe pas, Owen Aiglepierre.
Mais bien sûr, avec un budget de 21 ou de 22 millions d'euros, à peu près.
Oui.
Mais le centre d'enfouissement est bien sûr un projet structurant. Ce n'est pas ce que je dénonce. Au contraire, nous en avons besoin. Mais nous ne devons plus aborder la question du centre d'enfouissement technique comme les solutions d'urgence qui ont toujours amené à déplacer nos poubelles de la maison vers les décharges et tomber dans le gouffre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mmh. Nous devons créer toute une chaîne de valeur entre la poubelle du producteur de déchets à ce centre d'enfouissement qui est censé n'accueillir que du déchet ultime ou du déchet qui n'a pas de solution de valorisation. Entre les deux, en prenant en compte les difficultés que nos pays ont, nos États ont, en question d'emploi des jeunes, en question d'emploi, d'employabilité, de formation des jeunes, je pense qu'il est possible aujourd'hui de créer très facilement 4 000 à 5 000 emplois dans les 12 mois qui viennent, dans mon pays, comme le Togo, par exemple.
À l'échelle d'une ville comme Lomé. Vous, à l'heure actuelle, vous avez 45 emplois directs, hein, c'est ça, et 150 emplois indirects.
Absolument.
Mais vous ambitionnez de créer 4 000 emplois, en gros.
Mais nous pouvons aller bien plus. Vous faisiez un parallèle avec Patrick. C'est tout le mal que nous nous souhaitons. Mais nous pouvons en créer bien plus. Regardez aujourd'hui le nombre de personnes au chômage. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut que nous changions de terme. Il n'y a pas de question de chômage en Afrique. Il y a une question de sous-emploi. Et vous n'avez qu'à rajouter ou à ramener la question de la quantité d'entreprises par habitant pour vous en rendre compte. Mais j'ai vu tout à l'heure, ou j'ai entendu tout à l'heure plutôt, que les entreprises étaient un peu pointées du doigt parce qu'elles ne faisaient pas ce qu'il faut ou qu'elles n'étaient pas assez mobilisées. Que fait-on pour les accompagner ?
Notamment pour former les jeunes et les accompagner quand ils sont dans l'emploi.
Mais bien sûr, il faut les accompagner, il faut les former. Vous savez, on a parlé de bac d'école. Le bac n'est plus un titre fiscal qui doit justifier de l'employabilité des jeunes sur le continent africain. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, dans mon entreprise, j'ai des gens en cause de responsabilité qui n'ont jamais mis le pied à l'école et qui sont très performants.
Dans la collecte et dans le tri
donc,
des déchets.
C'est la réalité. Dans la collecte, dans le tri. Mais le tri ne nécessite plus seulement de trier tel papier de tel plastique. C'est de vraies aptitudes techniques que nous nous employons à inculquer à nos employés.
Ouais.
Nous trions par exemple sur des normes internationales. Sur ces normes, il faut avoir des techniques. Il faut avoir une certaine aptitude, il faut pouvoir former les personnes qui sont au tri, qui sont à la collecte, sur tous les paramètres nécessaires pour créer la chaîne de valeur dans l'entreprise.
Donc, on a bien compris, c'est vraiment des métiers de la logistique et pas seulement de la main-d'œuvre de base. Hein. Ça demande des compétences de logistique. Rowen Aiglepierre, sur un secteur comme ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a une possibilité de procurer des emplois de manière, je ne sais pas si vous appelez ça à grande échelle, à moyenne échelle, mais de sortir de... Parce qu'à l'heure actuelle, on voit bien, quand il y a des projets d'ONG, on est sur quoi ? Quelques dizaines, quelques centaines d'emplois. Quand il y a les mêmes projets au Bangladesh, c'est des milliers d'emplois. Alors pourquoi on n'y arrive pas sur le continent africain ?
Je pense qu'on est en train d'intégrer cette question-là. Moi, je pense que la question d'emploi, finalement, elle n'était pas si bien traitée que ça par le passé, en fait. Pendant très longtemps, encore une fois, on a cru qu'on allait faire des projets d'infrastructure qui allaient créer de l'emploi. Maintenant, on en a fait un objectif en soi. On commence à investir beaucoup sur ce sujet-là, mais c'est encore, on est encore au balbutiement.
Ça veut dire que quand l'AFD investit dans un projet de développement, à chaque fois, elle pose la question de la création d'emplois ?
Eh bien, de plus en plus, mais ce n'est pas de la même manière qu'on pose la question du climat, qui n'était pas du tout posée avant. Mais ce n'est pas forcément un réflexe. Maintenant, c'est vraiment là. Mais c'est relativement récent, hein, que ce soit pour toutes les autres institutions d'ailleurs. Idem pour l'État, finalement, pendant très longtemps, on a regardé l'efficacité, il fallait construire l'autoroute le plus rapidement possible. Mais maintenant, on essaie justement de regarder beaucoup plus la quantité d'emplois qui sont créés directement et indirectement. Et point très important aussi sur les questions de déchets, c'est aussi la qualité de ces emplois-là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'emplois qui se créent, qui sont de très mauvaise qualité, et qui du coup mettent en danger, notamment les femmes. Et donc en fait, il ne faut pas créer de l'emploi à tout prix, il faut créer du bon emploi. Et ça, c'est aussi un sujet sur lequel il faut faire très très attention.
Ouais, difficile en même temps quand on ne sait pas quels seront les emplois de demain. Et vous l'avez dit dès le début de l'émission, qu'on va être de plus en plus dans des cycles précaires d'emploi.
C'est ça qui change justement. C'est qu'on reconnaît actuellement que la démarche initiale pour créer de l'emploi, et non pas des programmes qui sont très en silo entre l'éducation, l'emploi, l'activité génératrice de revenus, etc. Le démarrage, c'est vraiment la connaissance des territoires, leur potentiel et comment une société à l'intérieur peut s'épanouir professionnellement et créer un espace économique qui s'inscrit sur du long terme et préserve la fragilité environnementale et sociale d'un territoire et de ses voisins. Et c'est cette nouvelle prise de conscience qui est intéressante.
Edem Dalmeida, il nous reste vraiment quelques secondes pour une conclusion. Vous, en tant qu'entrepreneur?
En tant qu'entrepreneur, je dirais simplement que ce sont les démonstrations que nous nous employons à faire tous les jours par le modèle applicable au barotechnique. Nous ne parlons pas assez, par exemple, des valeurs à inculquer aux salariés, comme le sentiment d'appartenance. Ça aussi, c'est un problème. Et puis, je vais finir aussi sur le pointage du doigt permanent vers la jeunesse. On dit qu'effectivement, le jeune ne veut plus être dans les rivales, le jeune ne veut plus travailler. Mais est-ce qu'on lui apprend à le faire? Est-ce qu'on lui apprend qu'il faut sortir du cadre éducatif où on apprend uniquement que le seul costume qui a de la valeur, c'est être ministre, que être ministre, c'est la finalité de la vie. Le costume de l'éboueur doit être valorisé à l'école. Et ça, en tant qu'entrepreneur, c'est ce que j'ai envie de partager, c'est ce que nous essayons de partager.
Merci d'avoir été en ligne avec nous, Edem Dalmeida, entrepreneur au Togo. Vous avez créé Africa Global Recycling. Est-ce qu'on a le temps de prendre juste Alex, un auditeur qui nous appelle en direct chez 7 milliards de voisins, qui est étudiant 20 ans à Brazzaville. Bonjour Alex.
Bonjour.
Je voudrais, alors il nous reste vraiment une minute, vous avez vraiment le mot de la fin dans l'émission, votre témoignage vraiment en quelques secondes, Alex.
Oui, d'accord, par rapport à ce que j'ai eu à donner même comme commentaire depuis Facebook, du coup moi je constate comme un nouveau dans ce marché, c'est simplement le fait, en premier lieu il y a le côté de la formation, parce qu'on aura beau dire qu'on a étudié, et quand je vois la formation, c'est inadéquat par rapport à ce qui est demandé dans les entreprises. Bien qu'il y a ceux-là qui sont compétents, mais je vais vous donner un simple exemple. On demande à un étudiant qui a étudié en commerce, on lui demande qu'est-ce qu'un commercial, et il t'attend pour répondre. Donc, c'est déjà un problème qui est vraiment à voir, ouais. Parce que ils sont nombreux comme ça dans notre milieu.
Un étudiant en commerce qui ne sait pas ce que fait qu'un commercial dans une entreprise. Merci Alex, on a bien compris aussi la frustration de la jeunesse. Merci à tous les deux d'avoir été dans le studio de RFI. Rohan Daigle-Pierre, vous êtes économiste à l'AFD, l'Agence française de développement. Le rapport sur l'insertion des jeunes sur le marché du travail est toujours d'actualité et toujours en ligne. Les voisins, vous pouvez le retrouver sur notre page 7 milliards sur le site RFI.fr. Il y a le lien direct. Merci à vous Hervé Bonino, responsable des opérations pour l'ONG Care France. Et merci à Ladouma Sijim, Ray Ganzounou et Edem Dalmeida. Et à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de l'émission sur ces femmes qui renoncent à être mères. C'était un tabou, une rareté, c'est devenu un choix assumé, argumenté. Alors comment dans une société très pro-enfant comme la France, des femmes décident de ne pas avoir d'enfants? Certaines parlent de leur couple sans enfants, d'autres de leur vie en célibataire, mais toutes estiment que le désir d'enfant n'est jamais venu à elles, non pas faute de structure pour faire garder son bébé, ni des difficultés de travailler en étant maman, comme au Japon ou en Allemagne. Non, c'est une évidence de non-maternité qui s'impose. On en parlera. À demain, les voisins et les voisines.
tout à l'heure.